Bonjour à tous et bienvenue dans Urbaflore. Urbaflore, l'émission mensuelle du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et Midi-Pyrénées. On est avec Jérôme Garcia. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous, bonjour Lisa.
Cette émission à propos de système de circulation de l'eau dans la plante, du fonctionnement d'une plante. Alors on parle d'eau, d'oxygène, de soleil, il y a tout ça mélangé. On est dans une grande boîte et ça pousse. L'eau ne monte pas nécessairement par capillarité dans la plante. C'est ce que je viens d'apprendre en rentrant en studio.
Effectivement. Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec toi, avec vous, ce cycle de l'eau qu'on trouve dans la nature, mais qu'on trouve aussi dans les plantes, dans toutes les plantes finalement. On sait très bien que l'eau, elle provient du sol.
Alors, j'ai envie de dire pas forcément. Il y a des plantes qui récupèrent de l'eau dans leurs feuilles.
Oui, alors on va avoir des plantes qui récupèrent de l'eau dans leurs feuilles, mais on est plus sur des plantes tropicales, j'ai envie de dire, ou... Il y a des espèces aussi qui vont utiliser comme ça une récupération d'eau quand elles sont épiphytes ou... Mais tu as raison, ouais, il y a des mousses effectivement qui récupèrent de l'eau sur leurs feuilles, tout ça, et alors, puis qui se réhydratent.
On va être non exhaustif hein, ouais. Du coup dans cette émission.
Oh, je voulais rester basique effectivement sur les plantes qui ont leurs racines dans le sol, leurs tiges et leurs feuilles dans l'air. Voilà, et simplement parler de l'eau qui démarre du sol. Enfin, que les plantes trouvent dans le sol.
Qui est captée dans les racines, par les racines.
Qui, voilà, et qui va transiter jusque dans l'atmosphère. Et cette eau, elle va voyager d'une certaine façon. Et en utilisant différentes voies de circulation. Et c'est ça que je voulais aborder aujourd'hui.
Alors, l'eau, elle tombe du ciel, elle est stockée dans la terre et elle est pompée par les racines des plantes.
Voilà, pour faire bref, c'est ça. Un petit résumé, simplement, la plante, elle est constituée de trois grandes parties, trois grands organes, on va dire, les racines, les tiges et les feuilles. Voilà. Et dans ces trois parties de plantes, il va y avoir des formes que prend l'eau ou des transits que prend l'eau qui sont un peu différents. On va commencer tout bêtement par les racines qui sont en contact avec le sol. Les racines, elles ont la capacité d'absorber l'eau du sol. Mais ce faisant, elles absorbent aussi tout ce qui est minéraux. C'est pour ça que quand on met un petit peu d'engrais dans le sol ou dans l'eau d'arrosage, c'est pour que la plante puisse en profiter et c'est d'abord absorbé par les racines. Donc les racines absorbent l'eau et les minéraux contenus dans le sol. Ça va se faire par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des poils absorbants. C'est des poils qui sont microscopiques, mais si vous avez déjà fait germer un haricot ou des lentilles, vous pouvez voir qu'il y a une espèce de duvet, on a l'impression qu'il y a une espèce de tapis de soyeux tout autour des jeunes racines qui poussent. C'est ça les poils absorbants en fait. Donc ces poils absorbants, au fur et à mesure que la racine pousse, ils vont grandir et puis ils vont mourir au fur et à mesure que la racine grossit en fait.
Ils ne se transforment pas en matériel racine?
Non, en fait ils meurent, ils sont là pour un temps donné, juste à l'extrémité des racines, ce qu'on appelle l'apex racinaire. L'apex racinaire, c'est... l'endroit où la racine va grandir. Et à chaque fois, il y a des poils absorbants qui vont être voisins de cette petite partie de racine qui pousse. Ce qui fait que la racine nouvelle va toujours être en capacité d'absorber de l'eau. Voilà, donc les poils absorbants vont contribuer à absorber l'eau et les sels minéraux. Donc ça va passer à travers la membrane et la membrane cellulaire. Et il arrive aussi que pour améliorer cette absorption de l'eau dans le sol, il y ait des symbioses. Et la symbiose qui se fait entre la plante et un autre organisme, ce sont les champignons. En fait, le champignon, simplement, va déployer ses filaments. Hein. Alors, on connaît les champignons qui vont faire leur petit chapeau et qu'on peut consommer. Mais une grande partie de l'année, le champignon, c'est simplement une espèce de mycélium, des espèces de filaments tout blanchâtres. Hein. Là, à l'automne, si vous soulevez des feuilles, vous allez avoir des espèces de masses blanchâtres. C'est simplement le champignon qui est en train de digérer la feuille. Et comme il y a beaucoup d'humidité, puisqu'il pleut pas mal à cette saison, les champignons se développent pas mal.
Et alors, et donc, il met en relation différents végétaux qui l'entourent.
Alors ça aussi, ça c'est une des propriétés des champignons. Je voulais pas forcément rentrer dans le sujet, mais on pense que les champignons contribuent aussi à relier les arbres et les plantes entre eux. Voilà, là je voulais simplement dire que le champignon c'est une espèce de deuxième système racinaire puisque les filaments vont beaucoup plus loin et s'étendent beaucoup plus que les racines des arbres ou des plantes et du coup captent beaucoup plus d'eau et de sels minéraux. Donc simplement les champignons vont apporter l'eau aux racines des plantes Et en échange, les plantes vont donner aux champignons du sucre. C'est pour ça qu'on appelle ça une symbiose, parce qu'il y a une contrepartie des deux côtés. Voilà, donc cette eau qui arrive par les racines et par les poils absorbants va ensuite emprunter une voie particulière qu'on appelle des vaisseaux du xylème. Alors le xylème, ce sont des vaisseaux qui sont morts, simplement dans la plante, qui apparaissent chaque année que la plante grossit au niveau du tronc. Donc ces vaisseaux vont conduire ce qu'on appelle la sève brute. Donc c'est de l'eau et des minéraux qui vont transiter des racines jusque vers les feuilles, jusque vers le haut de la plante, quoi.
Par la tige.
Par la tige, exactement. Donc la tige a plusieurs fonctions. J'en ai cité une qui est celle d'avoir des canaux, d'avoir des vaisseaux, donc les vaisseaux du xylème, qui transportent donc l'eau et les sels minéraux. Mais la tige, elle a aussi une fonction de support. Elle permet à la plante aussi de s'accroître et de pas forcément se casser, de pas plier. Enfin bref, les grosses tiges, on appelle ça des troncs, donc, pour les plantes qui sont ligneuses. Et donc, cette eau, elle transite dans ces canaux, qui sont des cellules donc mortes, jusqu'aux feuilles. Et dans les feuilles, il y a un phénomène assez intéressant qui est la photosynthèse, dont tout le monde connaît, au moins de nom. La photosynthèse, pardon, c'est la transformation de l'énergie solaire en matière qui va servir à la plante pour se construire. Comment ça se passe ? Des questions, Lisa ?
Ah non, pour l'instant, moi je suis là, j'ai rien à dire, j'adore. La photosynthèse, effectivement, on conçoit à peu près. Mais le comment ça marche, effectivement, pour transformer l'eau et la lumière en véritable matière organique ?
Alors, dans les cellules végétales, il y a ce qu'on appelle des chloroplastes. Les chloroplastes, ce sont des organites, ce sont des espèces d'usines, c'est des mini-usines qui donnent leur couleur verte aux feuilles et aux végétaux, en fait. Et le chloroplaste, il a la particularité de pouvoir capter la lumière, c'est une espèce d'entonnoir, en fait, qui capte les photons lumineux et qui vont permettre, il y a des processus chimiques, physiques, qui font que ça casse les molécules d'eau. Donc, en cassant la molécule d'eau, ça va libérer de l'oxygène. La molécule d'eau, c'est H2O, donc deux hydrogènes pour un oxygène. Et en fait, lorsque le chloroplaste fonctionne à la lumière, la molécule d'eau est séparée en deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Cet oxygène-là, il s'échappe dans l'atmosphère, l'eau arrive jusqu'aux feuilles, il est cassé par la photosynthèse pour récupérer de l'hydrogène qui va servir ensuite à faire de la matière, puisque quand l'oxygène s'échappe, du dioxyde de carbone rentre. Et la photosynthèse, c'est ce processus de libération d'oxygène et de captation du carbone de l'atmosphère pour fabriquer sa propre matière. C'est pour ça que les plantes, c'est super intéressant, parce que c'est grâce à elles que finalement la vie sur Terre a pu se développer. Auparavant, la vie s'est développée dans les mers, dans les océans, dans l'eau, parce qu'en fait, d'une part, il y avait des UV, il y avait aussi des problèmes de... Il n'y avait pas d'oxygène, en fait, dans l'atmosphère à l'origine du monde, on va dire. Et simplement, du fait d'un développement massif des végétaux qui vont capter...
Du plancton, non ?
Ouais, le plancton, le phytoplancton en particulier, hein, puisqu'il y a du plancton animal et du plancton végétal. Le phytoplancton contient de la chlorophylle, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la chlorophylle, c'est ce qu'il y a dans les chloroplastes, qui donne la couleur verte. C'est un pigment, du coup, qui fait cette transformation. Donc, globalement, le CO2 de l'atmosphère s'est progressivement transformé en oxygène du fait de la photosynthèse par les plantes. J'avais peut-être quelques chiffres à donner, parce que c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a une certaine vitesse comme ça de transport de l'eau dans les tiges. Dans la bibliographie, on trouve différents chiffres. Moi, j'ai retenu que le transport de l'eau allait de 1 à 6 mètres par heure. Quand la transpiration est maximale, ça peut aller jusqu'à 100 mètres par heure. Donc, vous comprenez bien qu'à la fois, une plante peut se dessécher très rapidement si elle n'a pas assez d'eau au niveau de ses racines, mais elle peut se réhydrater aussi très rapidement. Si vous avez une plante chez vous en pot, Moi, ça m'arrive d'oublier d'arroser. Je vois de suite que la plante, elle a soif parce que ses feuilles, elles sont toutes molles. Enfin, on voit qu'il y a un truc qui va pas. Et dès qu'on arrose, une demi-heure après, on voit la différence. Enfin, c'est comme si elle avait jamais souffert de sécheresse, quoi. Donc, c'est assez rapide quand même. Voilà, donc c'était important d'expliquer ça. Et puis, on peut se dire, mais ouais, voilà, il y a du soleil, donc... Il y a l'eau qui s'évapore par les feuilles, et puis il y a la photosynthèse, etc. Je reviendrai sur ce qui se passe dans les feuilles aussi. Mais la nuit, comment ça se passe? Puisque j'ai expliqué que c'était le soleil qui faisait fonctionner tout ça. Ben, la nuit, effectivement, il n'y a pas de photosynthèse. Et en fait, c'est le fait que la plante ait concentré des minéraux dans la journée, au niveau des racines, qu'il y a toujours une succion qui se fait au niveau du poil absorbant. Et donc, la photosynthèse est remplacé par ce qu'on appelle la poussée racinaire. Et donc, la nuit, l'eau continue d'être absorbée par les racines. Alors, bien sûr, pas à la même vitesse, mais c'est ce qui fait que le lendemain matin, vous pouvez avoir aussi sur les feuilles des espèces de petites gouttelettes à l'extrémité des feuilles. Alors, ce n'est pas forcément de la rosée, mais c'est issu de la poussée racinaire. Ça montre qu'elle est efficace. On a ça des fois sur les bord de feuilles de rosier, des petites gouttelettes d'eau comme ça. Pour en revenir et pour finir sur la tige, surtout, je vous ai parlé de la conduction, il y a un flux de sève brute, donc de l'eau et les sels minéraux dans le faisceau du xylème, mais la tige, elle a également des vaisseaux qui sont des vaisseaux du phloème. C'est une sève descendante, on appelle ça une sève descendante, qui contient plein de sucre. Typiquement, c'est le sirop d'érable. C'est un liquide un peu sucré qui s'échappe quand on fait une incision dans le tronc. C'est simplement la sève élaborée, très sucrée, qui s'en échappe. Alors dans les feuilles, en fait, je vous ai parlé donc de ces pigments, de cette photosynthèse, mais l'eau, elle est où? Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle devient? Donc les feuilles, en fait, elles abritent des espèces de chambres, des espèces de loges. Et ces loges vont accueillir l'eau, mais sous la forme de vapeur. Et pour que l'eau s'échappe de ces loges, il y a des petites ouvertures qu'on appelle des stomates. Rien à voir avec des tomates, hein. Il me semble que dans une émission,
on l'avait déjà fait,
on en avait parlé. Ces stomates, ils régulent les échanges gazeux dans la feuille et avec l'atmosphère.
C'est-à-dire que quand l'eau remonte donc, des racines à la tige en arrivant aux feuilles, elle est sous forme de vapeur?
Non, elle est sous forme liquide. Mais en arrivant au niveau de cette espèce de chambre, qu'on appelle une chambre sous-stomatique, parce qu'elle se situe sous les stomates, elle s'échappe par des stomates, en partie, et l'autre partie, bien sûr, sert pour la photosynthèse, comme j'ai expliqué, avec l'hydrogène, le carbone, bref. Et les stomates, simplement, permettent à une partie de l'eau s'évaporer, mais aussi à l'oxygène qui a été produit par la photosynthèse, de rentrer aussi, pour permettre la fabrication des éléments carbonés, quoi. Donc en fait, c'est simplement ces stomates qui vont réguler ces échanges gazeux, donc la sortie de l'eau excédentaire et de l'oxygène dans l'atmosphère. Mais ces stomates, ils sont soumis aussi à différents facteurs de luminosité, de température, de vent, etc. Et ils vont réagir en fait en se fermant ou en s'ouvrant pour d'une part éviter que la plante se dessèche, on en avait déjà parlé dans une autre émission, et puis pour que à la fois elle puisse continuer à faire de la photosynthèse et donc à se construire, à fabriquer des sucres, puisque c'est ça que la plante fabrique. Voilà, donc toute l'importance des stomates. Il faut savoir qu'il y a environ 98% du volume d'eau qui est absorbé par les racines, qui est libéré au niveau des feuilles par la transpiration. Donc l'eau, elle reste vraiment pas beaucoup dans la plante. Il y a une partie, bien sûr, qui est consommée pour ce que j'ai expliqué. Mais il faut aussi se dire que c'est une façon de rendre à l'atmosphère toute l'eau qui est tombée par la pluie. Donc c'est important aussi d'avoir une couverture végétale et active plutôt qu'une couverture uniquement de terre où il n'y a pas grand-chose. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir de la végétation sur un sol plutôt qu'un sol nu, pour continuer à maintenir comme ça les échanges d'eau entre le sol et l'atmosphère. Et puis la libération aussi d'eau, on l'a vu et puis on s'y intéresse de plus en plus dans les villes. La libération d'eau par les plantes permet aussi de rafraîchir l'atmosphère. Donc c'est des espèces de climatiseurs naturels. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir les plantes dans ces situations-là de chaleur urbaine, où, non seulement pour ce rafraîchissement naturel, mais aussi pour l'ombrage que ça procure, etc. Après, j'ai vu ces chiffres-là que j'ai trouvé assez intéressants. Une forêt de hêtres d'un hectare libère dans l'atmosphère 25 tonnes de vapeur d'eau par jour en période de végétation. C'est l'équivalent à 250 grammes d'eau, donc un quart de litre d'eau par arbre. Ça peut paraître peu, mais rapporté à l'hectare et au nombre d'arbres, c'est plutôt pas mal. Et du coup, si ça libère autant dans l'atmosphère, ça veut dire aussi que dans le sol, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau pour que la plante elle puisse survivre. Et pareil, une forêt, ça a besoin d'environ 30 tonnes d'eau par hectare et par jour. Pour 30 tonnes d'eau absorbée, il y en a 25 tonnes qui sont libérées sous forme de vapeur d'eau et puis 5 tonnes qui sont utilisées par les plantes pour se fabriquer elles-mêmes, quoi.
Et pour transformer le CO2 en oxygène.
Exactement.
Rien que ça.
Rien que ça, effectivement, pour qu'on puisse respirer. Voilà, donc simplement savoir que les formations végétales, les forêts en particulier, elles ont une forte influence sur le cycle de l'eau et une forte influence du coup aussi sur l'ambiance climatique, on va dire. Des racines aux feuilles, le cycle de l'eau dans les plantes, avec Jérôme Garcia du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, qui a la joie d'être accompagné par Lisa et Chen.
Merci Jérôme. Toutes ces émissions sont à retrouver en podcast, bien sûr, sur le site cfmradio.fr, rubrique Urbaflore, au mois prochain.
Oui, et qu'est-ce qu'on fait le mois prochain? On va parler des friches agricoles. À bientôt.
À bientôt.